Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous partions à la recherche de la meilleure version de nous-mêmes. Tout un programme, pas vrai? Mais d'abord, je voudrais vous inviter à faire travailler votre imagination. Alors voilà, nous sommes dans une jolie prairie bordée par un ruisseau qui glougloute joyeusement. Vous y êtes? Vous pouvez même tremper vos orteils, mais je vous préviens, l'eau est très froide, hein? Installé paresseusement sur une feuille de nénuphar. Comment ça, ce n'est pas une feuille de nénuphar, une feuille de bananier? Mais pas du tout. Faites travailler votre imagination. Donc, installé paresseusement, clafoutis, la grenouille, semble réfléchir profondément, les yeux fixés sur la prairie voisine. Oh oh oh! Sa sous-cyclette semble pédaler à toute vitesse.
Ah, j'en ai marre d'être une petite grenouille insignifiante. Pourquoi ne suis-je pas une grenouille importante que tout le monde verrait de loin et admirerait? Sniff, 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 quoi, quoi, quoi.
Quelques dizaines de mètres plus loin, Azalée, la jolie vache, se repose en ruminant après avoir brouté tout son sou en attendant l'heure de la traite.
Voilà! Ouspète clafoutis. Azalée, elle, tout le monde la voit, tout le monde l'aime parce qu'elle donne du bon lait. Et moi, personne ne me remarque. Oh, j'aimerais tellement lui ressembler.
Stop, clafoutis!
Une de tes ancêtres a déjà fait le même rêve. Et tu sais quoi? Ça s'est mal fini. Monsieur de La Fontaine nous a raconté qu'elle a, elle a explosé. Et puis, pense au joli nénuphar sur lequel tu te prélasses. Que se passerait-il si tu devenais aussi lourde qu'Azalée? Tu sais, tu es importante dans ta vie de grenouille. Tu gobes une quantité d'insectes qui n'iront pas agacer Azalée en la perturbant dans sa fabrication du lait. Et voilà, nous sommes parfois comme cette jolie grenouille, à vouloir être quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Une mauvaise image de soi, le regard dévalorisant des autres, des paroles blessantes, de l'envie, de la jalousie. Alors comme à clafoutis, je dis stop. J'ai vécu cela, comme chacun certainement. Quand j'avais 13 ou 14 ans, j'avais une amie et nous formions un tandem inséparable. On nous voyait rarement l'une sans l'autre. Bon, elle avait un regard parfois pas très charitable sur notre amitié. Un petit échantillon. Un jour, elle m'a dit « On est comme Rachel et Léa. Moi, je suis Rachel parce que je suis la plus jolie. Et toi, ben voilà, toi, tu es Léa. » Et je vous assure que là, j'ai été jalouse de sa beauté et je me suis enfoncée dans ma laideur. On a tous vécu ce genre d'expérience. Et le regard des autres et l'importance qu'on y attache selon notre caractère nous empêchent d'être la meilleure version de nous-mêmes. Quand nous sommes arrivés à Josué, mon Dieu, il y a déjà presque 10 ans, le temps passe vite. Hein. Mes personnes de référence dans la gente féminine, celles que je connaissais déjà, c'était Huguette, Jocelyne et Manuela. J'avais envie de m'intégrer, je voulais tellement devenir participante à la vie de Josué. Donc j'avais envie, je me suis dit, en devenant comme elle, ça va être top. J'ai prié pour que Dieu me transforme à leur image. Et comme rien ne venait, je demandais des explications. Et voici ce que mon papa m'a dit. Une Huguette, ils en ont une. Une Jocelyne, ils en ont une. Une Manuela, ils ont déjà. Par contre, une Mathé, ils n'en ont pas, alors sois toi-même. Et je suis persuadée que la meilleure version de soi-même, c'est d'être celle ou celui que Dieu veut que nous soyons. La façon dont je me vois m'empêche d'être la meilleure version de moi-même parce que je ne me vois pas comme Dieu me voit. Si la façon dont je me vois n'est pas alignée à celle dont Dieu me voit, cela m'empêche de devenir cette meilleure version de moi-même. Et nous ne sommes pas les premiers à ressentir cela. Hein. Gédéon, par exemple, quand l'ange lui a dit, il y a un héros, il a dit, moi, héros, non, c'est moi, pas, je suis le plus petit de la plus petite famille, non. Et Moïse,
Quand Dieu lui a dit « Je voudrais que tu ailles parler à Pharaon pour libérer le peuple. » «
Non, je ne peux pas parler, ma bouche ne peut pas parler. »
Pourtant, Dieu voyait Gédéon comme un héros. Il voyait Moïse comme un ambassadeur, comme un leader. Et Jérémie, il dit « Oh non, non, je ne peux pas, je suis qu'encore un enfant. » Et pourtant, Dieu le voyait comme un prophète. Comment est-ce que Dieu te voit ? Le regard des autres est aussi une énorme barrière dans notre quête. Alors, comment est-ce que ton entourage te perçoit ? Vous savez, au quotidien, il y a des choses pour lesquelles on ne se sent pas doué et on cherche toujours quelqu'un qui puisse nous donner un coup de main. Par exemple, moi, avec un marteau, je suis une catastrophe potentielle pour le BTP. Mais heureusement, j'ai à la maison quelqu'un qui manie le marteau avec adresse. Et donc, voilà, moi j'ai plein d'idées pour la décoration et lui les exécute. Mais quand on ne trouve pas quelqu'un, que faire ? Alors, bon, voilà, on va sur YouTube, on cherche un tuto et on essaie de faire du mieux possible. Alors, si mon bricolage est réussi, ceux qui vont venir vont dire « Waouh, Mathé, c'est une super bricoleuse !» Ben, c'est pas vrai, pas du tout. Par contre, si c'est raté, on va me coller une étiquette qui finira par s'incruster dans mon identité, tout au moins parce que j'y accorde trop d'importance. Mais Dieu, lui, il ne se laisse pas duper. Il me voit comme je suis réellement. Moi, j'ai du mal. Hein. Et me voir dans la meilleure version de moi-même est souvent compliqué parce que j'ai une vision polluée par mon regard perso et par celui des autres. Je vous invite à lire 2 Timothée 1:6. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Ah oui, d'accord. Mais ce verset, ben voilà, il est pour ceux qui ont reçu un don, pas pour moi. Écoute bien, tu as reçu un don de la part de Dieu, même plusieurs, et il est important ce don. Clafoutis pensait aussi qu'elle n'avait rien reçu, mais Dieu en a fait son insecticide personnalisé. Maintenant, quand vous verrez une grenouille, vous penserez qu'elle est l'insecticide personnalisé de Dieu. Les autres ne pensent peut-être pas que tu es important, mais Dieu le pense, et son avis est celui qui compte le plus. Vous savez, avant de devenir roi, avant même de se douter qu'un jour il serait roi, David a dû surmonter 2 obstacles. Lui n'était pas là, mais il y a 2 obstacles qui se sont opposés à sa destinée. Le premier, c'était l'incapacité de sa famille à voir son potentiel. Lorsque Samuel le prophète a annoncé qu'il allait venir pour un sacrifice et qu'il a inventé toute la famille Isaïe, je suis sûre que Madame Isaïe a repassé tous les manteaux, elle a recousu tous les boutons, elle a tout vérifié. Monsieur Isaïe a vu regarder si les barbes étaient bien taillées, les chaussures bien cirées. Tout au moins pour les fils qui étaient à la maison. Parce que David, lui, il n'est même pas pris en compte. Il est au champ, il garde les moutons, il garde les brebis. Oh, c'est peut-être parce qu'il est le plus jeune et que ses frères semblent plus qualifiés. Ou alors, c'est peut-être parce que son père veut impressionner le prophète avec ses fils ultra costauds, ultra musclés. Et le second obstacle, c'est la difficulté de Samuel à reconnaître l'appel de Dieu le concernant David. Alors, quand le prophète rencontre Éliab, le frère aîné, qui est général dans l'armée royale, il déclare « Ah, c'est certainement lui que le Seigneur a choisi. Il est beau, je le vois bien porter la couronne et tout. » Mais Dieu reprend Samuel en ces termes. Il lui dit « C'est pas lui. » Parce que tu crois, Samuel, les gens, et toi aussi, font attention à ce qui se voit. Mais moi, je regarde au fond du cœur. Et sont passés ensuite les 6 frères. Et Dieu a dit, c'est pas lui. Finalement, ces refus successifs de Dieu ont amené Isaïe à se souvenir qu'il avait un autre fils. Alors le problème qu'a rencontré David est courant. Nous ne pouvons pas croire en nous-mêmes parce que si nos parents ne nous ont pas encouragés. Et en tant que parent,
Bien, c'est quelque chose d'important. Un jour où je partais avec les jeunes de l'église dans mon sud-ouest natal pour un week-end, ma maman m'a dit, au moment où je montais dans la voiture, elle s'est approchée, elle m'a murmuré à l'oreille, « Quand tu es en compagnie, tais-toi, au moins les autres ne verront pas si tu es bête. » C'est gentil, hein? Charmant. Ma maman, elle était super gentille, mais elle avait quand même un petit esprit de contrôle sur nos vies. Voilà. Bref. Certains enfants possèdent un grand potentiel musical, d'autres, notre potentiel dans un autre domaine artistique. Mais parce que personne ne va les encourager, ben, ils vont même pas en prendre conscience. C'est les dons que Dieu a placés en eux. Imaginez, par exemple, un groupe d'architectes, pourquoi pas, qui a obtenu le concours pour bâtir un quartier. Ils sont tous là, c'est des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être 30 ans d'expérience, et arrivent en dernier et en courant, parce qu'il est un peu en retard, un jeune architecte plein d'idées révolutionnaires. Et voilà, il commence à leur exposer ses idées. Et franchement, les grands messieurs titulaires du poste lui ont dit « Mais ça va pas, mais c'est quoi ces idées folles ? Non, mais tu te rends pas compte, mais tu n'y connais rien, mais nous on le fait. » Voilà. Et voilà, et je pense que tous les rêves de jeunesse de ce jeune architecte, ils vont s'écrouler. Alors si tu te sens concerné, ben, il est temps de te reprendre en main et d'affirmer qui tu es vraiment. Et alors je peux te dire que là, c'est ta sous-cyclette qui va commencer à chauffer. Commence à prier pour que Dieu t'ouvre les yeux et mette sur ta route quelqu'un qui ranimera le don qui est en toi. Vous savez, je vais vous dire, j'ai eu besoin de toute une armada pour me désembourber du regard que j'avais sur moi. Vous savez quoi ? Parfois, quand je vois où Dieu m'embarque, je ne me reconnais même pas. Alors, es-tu partant pour chercher avec moi comment Dieu te voit ? Oui ? Ok. Dieu te voit comme juste. Tu fais partie de ceux qu'il a pardonné et racheté. Bien sûr, on ne doute pas de la puissance du sang de Jésus au travers duquel nous sommes pardonnés, justifiés. Mais ça reste parfois une notion juste réelle pour le temps de la Sainte Cène. Non, le problème, c'est que nous n'arrivons pas à ajuster notre vision de nous-mêmes à cette justification. Dieu nous voit juste. Nous, on a du mal à se voir juste. Au quotidien, voilà, c'est difficile pour moi de dire « je suis juste ». D'abord, ça fait prétentieux, manque d'humilité, mais pas du tout. Dieu te voit juste, donc tu peux te dire que tu es juste. Il y a des années, Alain avait fait un message sur le thème de la justification et au cours du message, il a demandé à ceux qui, dans l'auditoire, se sentaient justes de lever la main. Alors, c'était rigolo parce que les personnes ont amorcé un mouvement pour lever la main, et puis ils ont commencé à regarder autour d'eux, et ils ont fini par se gratter qui la tête, qui le nez, qui l'oreille, qui a rangé ses lunettes. Personne n'osait s'approprier en premier ce titre de juste offert par Jésus. Chacun attendait que son voisin lève la main. Il y a une sorte de dissociation entre la vérité spirituelle et le ressenti de chaque instant. En fait, il nous manque cette dimension supplémentaire pour nous dire « oui, mais Dieu me voit comme cela ». Pourtant, Dieu est toujours là. Il est toujours aussi puissant. Et où que tu sois, il est à tes côtés. Il y a aussi le regard des autres. Alors bon, je ne sais pas si parfois vous êtes au bénéfice de Radio Potin. Vous savez, les gens disent plein de trucs sur vous. Devant vous, non, mais sur vous, oui. Et voilà, Radio Potin, parfois, ça décoiffe. Quand nous étions à l'éducation nationale, un soir de rentrée, donc la première journée de classe était passée, je faisais des courses au supermarché de la cité et deux mamans papotaient à la caisse devant moi. Et une se dit à l'autre, « Alors la rentrée pour ta fille, ça s'est bien passé ?»« Oh oui, lui répond la première, elle est chez Madame Rindel, je suis contente. »« Oh !» lui dit l'autre, « Mais tu sais pas qu'elle est méchante ?» Ah bon ? Mais pour moi, Je m'en fiche parce qu'elle est efficace. Je n'ai jamais été méchante. Et j'en suis ravie. Je ne sais pas où elle est allée chercher ça. J'aime trop les enfants. Peut-être parfois j'ai été maladroite et je m'en suis excusée. Mais jamais je n'ai été méchante avec eux. Certaines personnes ont une vision faussée de toi, de moi, et ne voient qu'au travers de filtres déformants. C'est une autre manière de voir, mais ce n'est pas la bonne. Le problème, c'est que parfois, on se l'auto-applique. On entend les autres nous voir comme ça, et on se voit comme eux nous voient. En fait, Dieu et moi, nous n'avons pas le même opticien. L'équipement optique divin est pourvu du filtre du sang de Jésus. Quand il me regarde, quand il te regarde, Dieu te voit au travers du sang de Jésus. Il y a des années, on chantait un chant dans les églises, enfin dans l'église où j'étais. Je ne vous le chanterai pas parce que ce n'est pas mon truc. Mais je vais vous inviter. Écoute, Dieu te raconter ce chant. Je t'ai revêtu du vêtement de la justice et Jésus vit en toi. Quel bonheur de savoir combien tu es aimé au ciel et que je te donne un sauveur. Quand je te regarde, je ne vois plus ce que tu étais, mais je vois Jésus. Quand je te regarde, je ne vois plus ce que tu étais, mais je vois Jésus. Waouh, quel cadeau! Et ce filtre dans le regard de Dieu, il est permanent et il est inamovible. Quand Dieu te voit, il ne te voit qu'au travers du filtre du sang de Jésus. Ce sang te pardonne, te justifie, te rachète, te libère. Alors, toi et moi, nous devons faire ce pas de parler le langage de Dieu. Par le sang de Jésus, je suis juste et je suis pardonnée. Je dois apprendre à me regarder moi aussi à travers le filtre du sang de Jésus. Alors, ça vous dit, on se le fait ce petit exercice ? Que ceux qui se voient juste lèvent la main. Waouh ! Tout le monde lève la main. Seigneur, prends la photo. Et en plus, tu n'es coupable de rien. Personne ne peut t'accuser parce que Jésus a choisi et il s'est chargé lui-même du prix de ta transformation. On ne lit nulle part dans la Bible que les hommes ont supplié Jésus de donner sa vie pour eux. Non, simplement que Jésus s'est porté volontaire. Lire ça dans Jean 10, 18. Personne ne me prend ma vie, mais je la donne de moi-même. Et les conséquences pour nous, c'est que du bonus. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Lui, il a eu la chose, la douleur, le moment le plus terrible. Et nous avons le fruit de cette obéissance et de cet amour. Il s'est chargé lui-même. Vous savez, quand nous avons déménagé, bon, on a essayé d'anticiper au maximum. Et chez nous, on a énormément de livres. Donc, nous avions acheté des cartons à... faut pas dire le nom. Hein. Et nous les avons remplis de livres. Mais nos cartons, ils étaient grands. Une fois qu'ils étaient pleins de livres, ils étaient lourds. Et pour les déplacer, on les poussait sur le sol du couloir. Et quand les déménageurs sont arrivés, au jour J, ben, ces cartons n'étaient pas du tout à leur goût. Ils pesaient trop, ils étaient trop lourds. Les messieurs musclés ont commencé par refuser de les trimballer. Ils ont dit, vous les avez sous-pesés ? Ben oui. Ben, c'est pas vous qui allez les porter. Et nous non plus, on les portera pas. Vous deviez prendre des cartons plus petits. Oh, un vrai cauchemar. Il y avait deux solutions. Soit Alain portait les cartons, parce que moi je ne suis qu'une faible femme, n'est-ce pas ? Et alors, aïe 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 son dos. Soit le déménageur accepte de les porter. Finalement, ils ont pris nos cartons et nous n'avons pas eu à les porter. Ben voilà, Dieu me voit et te voit comme juste. Il prend tous tes cartons et il les porte pour que tu avances librement. Tu peux descendre l'escalier en courant, en chantant, en sautant. C'est lui qui porte ce qui est lourd, les poids qui sont sur ta vie. Dieu te voit comme juste. Mais Dieu te voit aussi comme son enfant. On va lire dans Romains 8, 15 à 17.
Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions à Dieu en lui disant « Abba, Père, Papa !» L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple. Et ces biens, nous les recevrons avec le Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, si nous les prenons, nous en sommes les bénéficiaires, nous participerons aussi à sa gloire. Tu te rends compte, Dieu t'a adopté. Dieu t'a donné son nom et tu es devenu son enfant. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Un autre verset, enfin un autre passage. Jean 1, les versets 12 et 13. « Pourtant, certains ont reçu la parole et ils croient en elle. À cela, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non pas de la volonté d'un homme ou d'une femme, mais de Dieu. » Je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Rien ne peut changer cela. Dieu te voit comme son enfant. L'arrivée d'un enfant bouleverse la vie d'un couple, surtout quand c'est le premier. On ne voit plus du tout les choses de la même manière. On fait tout en fonction de l'enfant qui va arriver. Et quand il est là, et qu'on le regarde, on est plein d'admiration. Vous savez, ma sœur, quand elle a eu sa fille, sa première fille, bon, elle avait pris plein de photos, on le fait tous, et nous aussi, on a pris plein de photos de nos enfants. Et à cette époque-là, c'était encore les photos que l'on développait sur papier. Et quand elle a repris son travail à la Sécurité sociale, elle a emporté toutes ces photos. Il y en avait partout autour de son bureau, sur son bureau, partout. Et chaque fois qu'un collègue s'approchait, elle disait « Tu as vu comme elle est belle, ma fille ?» Et un jour, il y en a une qui en a un peu marre et qui lui a dit « Tu sais, même la chouette trouve ses enfants beaux. Pourtant, bébé chouette, c'est pas joli joli au début. » Et là, je pense qu'elle a compris le message. Elle a rangé ses photos, elle les a gardées pour son plaisir personnel, pour son amour, pour sa fille. Nous regardons nos enfants avec amour, avec bienveillance. Et tout ce qu'on voit, ou tout au moins tout ce qu'on devrait voir, c'est son potentiel, son avenir. Bien sûr, il fera des bêtises, hein. Notre fils disait « Papa, maman, fermez les yeux parce que je vais faire une bêtise. » Au moins, on était au parfum. Mais ces bêtises ne modifieront jamais l'amour que nous lui portons et notre façon de le voir. Il faudra parfois punir, sanctionner, mais toujours avec ce regard d'amour. « Je t'aime, je n'aime pas ce que tu as fait, donc voilà, je suis obligée de te punir, mais je t'aime, souviens-toi que je t'aime. » Et Dieu nous regarde comme un père regarde son enfant. Et quand il te regarde, quoi que tu aies pu faire, il n'y a rien qui pourra altérer, diminuer, transformer l'amour qu'il a pour toi. Parce qu'il te regarde comme un papa regarde son enfant. Ce qu'il voit en toi, c'est ton potentiel, ta destinée. Quoi qu'en disent ceux qui t'entourent. Je voudrais vous parler un peu foot. Je ne sais pas si quelques-uns ont vu... ou se souviennent du match qu'il y a France-Gibraltar qui a eu lieu en novembre 2023. Nous étions à Lue et j'étais très frustrée de ne pas pouvoir voir ce match. Et donc, un de mes anciens élèves m'a dit « T'inquiète pas, je t'enverrai tous les grands moments, je t'enverrai un texto. » Et mon téléphone n'arrêtait pas de piper. En fait, le score a été de 14-0. Waouh ! Une vraie guillotine. De véritable exécution. Quand on est du côté du 14, ça va, on est content, on rigole. Mais le petit gardien de but, enfin je ne sais pas s'il était si petit que ça, parce qu'en général ils sont plutôt baraqués, le gardien de but qui a encaissé les 14 buts, il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais voilà, les deux équipes avaient une force tellement inégale, elles étaient tellement différentes, que les efforts de chaque joueur restaient vains. Et dans cet événement, il y a quatre regards. Quatre manières de voir les choses. Pour le gardien de but, ça a dû être compliqué et difficile d'encaisser tous ses buts. Il s'est vu comme nul. Moi, je le comprends, parce que j'avais été à sa place, j'aurais décidé d'aller planter des petits pois en Afrique du Sud. Les coéquipiers, eux, oh ben pour eux, c'était facile. Ils ont dit, bon, de toute façon, aujourd'hui, il n'est pas en forme, le gardien, c'est une vraie passoire. Alors qu'ils avaient leur part à faire pour empêcher les ballons d'arriver dans le but, il y a tout le terrain à traverser. Et leur regard vient encore alourdir le regard que le gardien porte sur lui-même. Ça, c'est le poids du regard des autres. Alors ensuite, il y avait la famille du gardien dans les gradins. La famille du gardien qui le regarde avec des yeux pleins d'amour. Ne voit que son potentiel mis à mal par les conditions du jeu. Mais elle, elle a comptabilisé, non pas les buts qu'il a encaissés, mais tous les buts qu'il a arrêtés, parce qu'il y en a eu, mais cela, personne ne les a vus. Le gardien, lui, il ne voyait que ce qu'il avait raté. Mais son fan club ne voyait que ce qu'il avait fait de bien. Et tous étaient fiers de lui. Et la dernière vision, la plus importante à mon avis, c'est celle du coach. Qui, avec son regard professionnel, dès le départ, il s'est dit, bon voilà, l'équipe adverse, elle est mais d'une supériorité écrasante. Donc le déséquilibre entre nos deux équipes laisse présager une défaite. Il a noté toutes les actions que l'équipe aurait pu faire pour soulager le travail du gardien. Et il a constaté les efforts de ce dernier pour indiquer cette avalanche de buts. Il a fait tout ce qu'il a pu, le pauvre gars. Et ce coach a expliqué au débriefing dans les vestiaires que lui n'avait aucun problème quant à l'efficacité du travail du gardien. Mais qu'il n'y avait eu aucune construction de jeu. Tout le monde était en cause dans cette défaite. 4 regards différents pour le même match. La manière de regarder une situation va avoir des conséquences totalement différentes sur toi. Tout est dans la façon de considérer ce qui se passe. Le plus souvent, nous regardons les choses à travers les yeux des autres. Oh, tu crois qu'est-ce qu'il en a pensé ? Il t'en a parlé, non ? Il t'a dit comment il l'avait trouvé ? Non ? Oh, mon Dieu, prouve qu'il l'a aimé ! Voilà. On se laisse influencer par ce regard-là et il prime sur la manière dont nous, on se voit. On a un Dieu qui est notre papa et qui nous regarde avec des yeux de papa. Dieu fait partie de notre fan club. Est-ce que tu t'interroges sur le regard que Dieu porte sur telle situation ou est-ce que tu te laisses dominer par le regard des autres? Comment Dieu voit-il ce que tu considères comme un échec? Toi, tu en déduis que tu n'es pas capable, que tu es nul, et tu envoies au fond de la mer la meilleure version de toi-même en te comportant comme une mauvaise version. Que voit Dieu dans ce moment-là? Ne voit-il pas en tant que père que tu étais là, que tu étais sur le pont, même si c'était difficile et que tu en prenais plein la figure? Bien sûr qu'il voit cela. Alors, je crois que nous devons nous entraîner, moi, toi et tous, à nous regarder différemment. Je veux me voir de la manière dont Dieu me voit, et toi. Avec ce regard-là, je vais pouvoir devenir la meilleure version de moi-même. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 17 à 20. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Tout ce qui est ancien est fini. Et là, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Tout ce qui te faisait souffrir, pleurer, trembler, rougir de honte, tout ça, c'est terminé. Je ferme la parenthèse. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes et des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Et là, je vais ouvrir une autre parenthèse. Comment puis-je inviter mes proches à se voir justes en acceptant la justification offerte par Jésus si moi-même je ne l'accepte pas, je ne l'applique pas à ma vie? On ferme la parenthèse. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconcilié avec Dieu. Et cela, nous vous le demandons avec force. Dieu n'en a pas fini avec moi. Dieu n'en a pas fini avec toi.
Dieu nous veut dans une autre fonction, et pas la moindre. D'autres versions disent dans ce verset, nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ. Dieu me voit, Dieu te voit comme un ambassadeur. Et toi, tu te vois comme un ambassadeur? C'est un honneur et une grande responsabilité. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous peut-être le 19 octobre ou tout au moins au mois d'octobre pour continuer sur ce thème. Vous voulez bien qu'on prie ensemble? Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous conduis et que tu nous parles. Tu es ce Dieu vivant qui nous parle et qui est toujours d'actualité. Tu nous regardes et tu nous vois comme tes enfants. Seigneur, merci. Parce que tous ici, nous sommes précieux pour toi. Et parce que tu vois chacun d'entre nous comme ton fils, comme ta fille. Tu nous regardes avec ton regard d'amour, avec la bienveillance. Et tu vois en nous le potentiel que peut-être nous ignorons ou que nous ne voyons pas ou que nous ne voulons pas voir. Ce matin, Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses nous conduire et nous aider pour que notre regard sur nous-mêmes soit aligné avec ton regard sur chacun de nous. Merci parce que tu nous as choisis. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes de ta famille. Tu nous as donné ton nom, Seigneur. Tu nous as choisis, tu nous as adoptés. Merci pour cette grâce que tu m'as faite de me choisir. Merci parce que tu as choisi chacun de mes amis ici présents ce matin. Seigneur, cette grâce, elle est indescriptible parce que rien de ce que j'aurais pu faire ne m'aurait permis de la mériter. Et rien de ce que je peux faire ne peut m'en priver parce que c'est toi qui m'as choisi. Merci Seigneur parce que tu places en nous ton espérance. Tu as pour nous un projet de paix, un plan, une stratégie, une destinée pour chacune de nos vies. Et notre objectif, notre volonté, c'est d'entrer dans tes voies, d'entrer dans ce chemin que tu as prévu pour nous, en poursuivant la route dans la meilleure version de nous-mêmes. Je voudrais rajouter, si c'est difficile pour toi de te voir comme Dieu te voit, profite de ce temps de Sainte-Seine pour le laisser changer tes lunettes. Accepte de mettre ta vision polluée de toi-même à la poubelle pour recevoir celle de Dieu. Et n'hésite pas à demander de l'aide. Amen.